Bon matin à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content parce que je vois des gens qui s'impliquent. Je vois des gens qui ont envie de servir le Seigneur dans notre Église. Et j'aime que vous soyez convaincus que tout simplement par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, on peut être transformé et désirer servir les uns les autres. Je suis convaincu que les ministères de cette Église découlent de cette transformation qui s'est passée un jour, certainement dans votre cœur. Avant de lire notre passage ce matin, je voudrais vous poser une question. Une question qui va nous diriger vers le but de mon encouragement. Quel sentiment, émotion ou compréhension viennent en vous, dans votre esprit, lorsque je vous dis le mot « servir »? Est-ce que vous voyez tout de suite une tâche à faire? Est-ce que vous dites « ouf, servir, c'est lourd, hein? Ah non! » Encore me demander de donner du temps. Peut-être que vous dites, moi j'aime servir. Ça fait partie de ma nature d'être donnant. Être au service, c'est une action qui revient souvent dans la parole de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais que servir soit notre objectif. Une chose importante, quand on veut avoir un objectif, c'est de définir ce qu'on veut faire, de définir les parties. On pourrait dire l'étymologie de se donner l'étymologie de ce mot ou définir, trouver la définition dans le Larousse de ce mot. C'est important de comprendre le contexte de servir. Et on va regarder ça ensemble. Il est vrai que le mot servir peut avoir plusieurs sens, plusieurs connotations, ce qui va lui conférer différentes réactions. Pour une journée des ministères, on pense tout de suite au service des uns des autres. Mais je crois que le vrai service doit être celui de servir le Seigneur. Vous pouvez tourner avec moi dans le texte de ce matin, dans Romains 12, et on va lire les versets 9 à 13. Je vous encourage, pendant la lecture, à être attentif à la lecture, car le sens du mot « servir » va ressortir avec l'ensemble de ces versets. Romains 12, les versets 9 à 13. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et est-ce qu'on peut le dire ensemble? Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Vous avez probablement entendu le message central que Paul passe dans ce passage parce que je vous l'ai donné. Et je veux que ce soit vraiment le centre de notre objectif. Servez le Seigneur. On va y revenir, évidemment, parce qu'on va commencer par le début. En commençant avec une idée bien précise dans le contexte, pour donner un peu de contexte à servir le Seigneur. Bon, je vous donne rapidement les 11 premiers chapitres de Romains. Salut par grâce. Romains 3, 23. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5, 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En gros, de l'excellente et très puissante théologie, afin de démontrer ce que Christ a fait pour toi et moi à la croix. 11 chapitres puissants qui défendent la foi chrétienne. Au chapitre 12, on ne passe pas un moins de théologie, mais on passe à un côté plus pratique. Paul ajoute une touche à son enseignement de plus pratique. Il débute dans les versets, par les premiers versets, par nous encourager à offrir nos corps, comme un sacrifice vivant. Ensuite, il nous montre que l'Église est un corps humain et que chaque partie a une fonction importante. Nous arrivons donc à notre section que j'aime et que nous allons regarder ensemble. Si le centre de ce passage est « Servez le Seigneur », la première partie, je la nommerais comme « Comment ». Comment servir le Seigneur? Ensuite, nous verrons plus en détail notre objectif, qui est de servir le Seigneur. Et pour terminer, nous conclurons avec le résultat ou le fruit de servir le Seigneur. Donc, comment, le but et le fruit. Commençons par le comment, des versets 9 à 11. Comment? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Dans cette première section, Paul expose comment. Comment nous devons servir le Seigneur? Il énumère quatre actions qui nous mèneront à notre but de servir le Seigneur. Je vais dire souvent « servir le Seigneur ». Peut-être parce que je veux comme vous montrer l'objectif. Parenthèse. Je enseigne les 12-17 et il y a un frère qui me demande « qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, je fais le but, l'objectif. Fait que c'est ça, le matin, le but, c'est servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Excellent. Donc, les quatre actions peuvent en soi guider le chrétien. J'entends déjà ceux qui aiment les listes. Ah, les listes. Je ne sais pas si vous êtes une personne de liste. Si vous aimez faire 1, 2, 3, 4, ah, j'ai fait la liste. Parfait, chose à faire, je vais les faire et puis ensuite, j'ai le résultat. Pour moi, le standard qui est mis dans ces deux versets, c'est la perfection. Donc, si vous voulez faire la liste, attelez-vous. Parce que la perfection, pour moi en tout cas, je ne l'atteins pas encore. Je la vise, mais je ne l'atteins pas encore. Alors, premièrement, l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Je dois dire que le Saint-Esprit, à travers Paul, frappe très fort. Vous savez comme moi que l'on peut à tout moment aimer quelqu'un, mais à tout moment, on peut, en anglais on dit « fake it ». On peut littéralement agir sans amour, tout en souriant comme si tout allait bien. Paul connaît bien ce dont nous avons besoin pour que l'Église puisse être unie, pour que l'Église soit parfaite. Il faut que l'amour, la charité, soit parfaite. Ici, Paul nous l'exprime à la négative. Sans hypocrisie. Bon, ça l'explique très bien ce qu'il veut dire, parce qu'on le comprend. L'hypocrisie, en fait, est l'antithèse de l'unité. Mais moi, je voudrais essayer de le... Bon, je ne vais pas remplacer Paul. Paul est inspiré, Paul, c'est Paul, mais j'aime le positif. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour dire que l'amour soit candeur, droiture, franchise, loyauté, rectitude, sincérité? Et je trouvais que sincérité était le mot le plus proche de l'inverse de l'hypocrisie. Bon, quand on veut viser quelque chose, on ne vise pas la négatif, on vise le positif. On veut viser ce que Dieu aime, pas ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Donc, que votre amour soit sincère. Paul nous le transmet comme un standard. C'est ce que nous devons aimer avec sincérité. Tu ne peux pas faire semblant. Le principe de la sincérité, c'est d'être vrai. D'un amour vrai. Deuxièmement, l'action qui nous mène vers notre objectif parfait, qui est de servir le Seigneur. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ici, Paul nous donne l'action à ne pas faire et l'action à accomplir. En ce qui a trait au mal, Paul nous dit seulement de ne pas le faire. Comme un parent, lorsqu'on dit à un enfant, arrête de faire ça. Ici, Paul nous dit d'aller une étape plus loin. Comme si l'on disait à un enfant, tu devrais haïr ce que tu viens de faire. Bon, ce serait peut-être difficile pour l'enfant de comprendre, mais c'est exactement ce que Paul nous dit. Ayez le mal en horreur. Tout de suite, Paul passe à cette action, une action positive. Il dit aussi, attachez-vous fortement au bien. J'aime ce positif. Ici, Paul ne dit pas seulement de s'attacher au bien, il dit aussi de s'attacher fortement au bien. Il nous donne un complément à l'action de faire. Paul connaît certainement la tendance naturelle de glisser vers le mal. Alors, je dois redoubler d'efforts à vouloir faire le bien, à m'attacher fortement au bien. Troisièmement, l'action se trouve dans le verset 10. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. » Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et si vous avez écouté mon flot de verbes, prévenance, c'est peut-être pas le mot le plus simple. Donc, j'ai été chercher la version du Sommeur, une version qui, généralement, ne dénature pas complètement le message, disons loin de là, mais donne des mots peut-être plus simples. L'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à le manifester. Intéressant. Ici, c'est encore une pratique pour les relations interpersonnelles. Je dois avoir de l'amour, de l'affection pour chacun d'entre vous. Une répétition de la part de Paul. Il dit de l'amour et de l'affection pour vous. Il insiste. Non seulement cela, mais je dois être le premier à faire le pas. Alors là, ceux qui attendent que je vienne les voir, ils vont être servis. Je ne dois pas attendre que vous veniez me voir pour manifester de l'affection, je dois prendre les devants. Oui, mais je suis gêné. Oui, mais y a tellement de monde différent de moi. Ils n'aiment pas nécessairement la même chose que moi. Oui, mais j'ai pas le temps. J'ai un horaire bien chargé. Je suis une personne occupée. Oui, mais. Il y aura toujours un « oui, mais ». Le standard, c'est « à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas aller vers les autres frères et sœurs. Le verset 10 nous exige « va vers l'autre, aime-le, serre-le, démontre-lui que Christ, ce que Christ a fait pour toi. » Quatrièmement, quatrième action, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. J'ai ici envie de dire que le Saint-Esprit connaît bien nos cœurs. Ici, il nous dit tout ce dont nous avons parlé. Faites-le maintenant. N'attends pas. Empresse-toi de le faire. Pourquoi il dirait une telle chose? Parce que nous avons cette fâcheuse tendance à remettre à demain tout ce qui nous sort de notre confort. Si je veux suivre ce que Dieu me demande, ce n'est pas de mettre à demain. Ça doit se faire en bon québécois, lolo. Drette lolo. Et je me parle à moi-même, évidemment. Je ne dois pas remettre à dimanche prochain d'apprendre à connaître telle ou telle personne. Peut-être que je n'ai pas le temps, mais maintenant, est-ce que je peux juste rencontrer cette personne rapidement? Lui dire « Hey, j'aimerais ça pouvoir te texter » ou « J'aimerais ça pouvoir qu'on prenne un café ensemble. » Prendre le temps de rencontrer cette personne. Peut-être que je pourrais aller visiter une personne qui a des besoins ou l'aider à déménager. Dans chaque cas, si je ne fais pas le pas vers cette personne, je ne peux pas apprendre à la connaître. Paul nous dit de faire ces deux choses avec empressement et en étant bouillant par l'esprit. L'expression « soyez fervent d'esprit » peut aussi être compris comme « bouillant dans l'esprit ». Expression intéressante parce que naturellement, qu'est-ce qu'on voit quand on dit « bouillant » ? On voit une casserole sur le four avec de l'eau qui bouille. Ça fait des bulles, ça fait de la vapeur, c'est chaud. C'est pas froid et ça ne fait rien. Paul nous dit de le faire non par nos propres forces, mais par la force du Saint-Esprit. C'est lui qui va permettre de l'accomplir parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé jusqu'à date? Quatre actions qui nous poussent à servir le Seigneur. Aimer nos frères et sœurs, s'attacher au bien, démontrer cet amour aux frères et sœurs et le faire d'une façon bouillante et le faire maintenant. On arrive à mon objectif. Paul, à ce moment-ci, nous dicte « servez » le Seigneur. Pour commencer, il ne dit pas « servez les uns les autres ». Intéressant. On pourrait penser qu'à ce moment qu'il nous ferait cette conclusion et elle serait presque évidente. Mais il dit « servez le Seigneur ». Encore une fois, il rehausse le standard au niveau de Dieu. Non seulement il nous montre qu'au niveau des frères et sœurs, je dois servir, mais il y a une implication au niveau de Christ. L'objectif du service est ultimement le service de notre Créateur. C'est lui que nous devons, c'est à lui que nous devons toute chose. Voici le moment pour ceux qui pourraient connaître les langues de la Bible. Parenthèse. Donc, si on regarde le mot « servir » et pourquoi je regarde la langue originale, c'est que je veux aller un peu plus loin. C'est le mot, pardonnez mon grec, « douloio-o ». C'est un, dans le fond, la racine de ce mot-là, c'est « doulos », beaucoup plus simple, « doulos ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire? La racine du mot « doulos », à part Richard. Bien, je vous la donne. C'est quand même pas léger. Préparez-vous. C'est, la définition, c'est « esclave ». J'ai un ami qui aime beaucoup... dire l'expression « esclave de Christ ». Mais pas juste esclave obligatoire. Ça peut être volontaire ou involontaire. C'est d'être un serviteur lié à son maître. Donc, Paul, encore une fois, va plus loin en laissant comprendre que nous devons être esclaves du Seigneur. Je n'ai évidemment pas de point de comparaison en ce qui a trait aux notions d'esclavage. Bon. Puis, nord-américain, ça s'est passé, mais c'est quand même pas récent. Puis, ben, mettons que nous, en général, on ne connaît pas trop ce que c'est que l'esclavage. Mais on a vu des choses et on comprend des choses. On sait que la liberté que ça donne, c'est limité à qui? Au maître. Donc, je deviens esclave de mon maître, qui, lui, décide des critères de ma vie. Donc, si vous êtes comme moi, vous comprenez de façon théorique que d'être esclave d'un autre est que notre vie lui est redevable, basée sur les critères qu'il va décider. Si j'essaie de tout mettre ensemble, je dois agir comme l'esclave du Seigneur, car il est celui qui dicte les critères pour ma vie. Mon service doit être la représentation de ce qu'il me demande d'être et de le faire. Le service est pour sa gloire. En résumé, ce que nous venons de voir, c'est que Paul nous a appelés à 4 actions qui démontrent comment servir le Seigneur. Il est difficile d'essayer de trouver des excuses pour ne pas accomplir ce que Dieu nous demande. Surtout du fait qu'il est le maître de ma vie. Le verset 12 et 13 sont aussi des prescriptions, mais je vois ici le fruit de servir le Seigneur. Donc, j'utilise ces deux versets comme conclusion. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Voici les 4 fruits qui vont résulter de notre service au Seigneur. La joie, la paix, la prière et le service. C'est un parfait quatuor. Ceci n'est pas une recette de psychologie à 2 sous trouvée dans un livre de bien-être ou d'amélioration de soi. C'est une lecture biblique. Premièrement, au verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. » Pierre nous exprime bien le fait de se réjouir en espérance dans l'épître de 1 Pierre 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Paul nous dit « Réjouis-toi chaque jour, même si tu n'as pas encore vu Jésus aujourd'hui, un jour tu le verras. Tu vas voir celui que tu sers. » Voilà ceci. Pourquoi une joie glorieuse et inexprimable? Est-ce que on peut croire qu'un jour on va voir Christ? Oui. Mais le fruit de servir, c'est la joie que je verrai ce Christ face à face. Donc, le premier fruit, c'est de servir avec joie. Servir Christ avec joie. Deuxième sera la paix. Soyons patients dans la tribulation. Nous avons des moments difficiles. Chaque jour, la vie n'est pas parfaite, évidemment. Et chacun a des niveaux différents de difficultés. Mais la marque du chrétien qui désire servir le Seigneur sera celui qui marche à travers ses difficultés dans la paix. Jacques 5, 11 dit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. As-tu des défis physiques ou as-tu des défis spirituels? La marque du chrétien, c'est de tenir ferme dans la patience. Cela va produire une paix que seul Dieu peut vraiment donner. Donc, nous avons vu ce premier fruit qui est les deux premiers fruits qui sont la joie et la paix. Maintenant, regardons le troisième. Le troisième est un impératif important dans la vie du chrétien. En fait, très important. En fait, majeur dans la vie du chrétien. La prière. Je ne vous ferai pas de leçon sur comment prier. Je pense que plusieurs fois, on a entendu parler de comment prier, comment nous devrions prier à l'Église. On en a souvent parlé. Mais ici, je veux mettre un peu d'emphase sur le mot « persévérer ». Jésus nous enseigne lui-même dans Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Je me pose la question dans ma propre vie. Est-ce que je persévère dans la prière? Pas seulement d'effleurer les sujets, mais lutter dans la prière. Être en relation profonde avec celui que je veux servir. Est-ce que tu démontres à ton Créateur que tu as envie de lui parler de tout ce qui se passe dans ta vie, et ce, jour après jour? Vous pourriez dire que c'est une tâche. Oui, c'est une tâche, mais c'est le fruit de vouloir servir le Seigneur. Donc, trois fruits qu'on a vus jusqu'à date, la joie, la paix et la prière. Le quatrième fruit, et le dernier, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Voici deux exemples de fruits de service. Évidemment, dans la parole de Dieu, les fruits de service sont multiples. Subvenir aux besoins des saints. Pour accomplir cela, il faut premièrement connaître les saints. Et ensuite, connaître leurs besoins pour finalement y subvenir. Quel fruit magnifique que de servir les autres. D'un amour débordant pour le Seigneur. Et se mettre disponible pour agir pour les autres. Paul va une étape plus loin encore. Il nous dit « Invitez-vous dans vos foyers ». Il faut dire que cela demande une touche personnelle. Quand je dis personnel, c'est « Bon, il faut connaître cette personne pour l'inviter ». Je crois que d'inviter quelqu'un chez soi peut être une vraie preuve de prendre soin des autres. Ouvrir son foyer peut être quelque chose de plus privé et c'est de laisser rentrer quelqu'un dans notre intimité. Ça demande un peu plus de préparation. Je suis certain que vous l'avez déjà fait. Continuons de le faire. Continuons de le faire parce que c'est un fruit de servir le Seigneur. S'inviter les uns les autres va faire grandir également l'unité de notre Église. Alors, trois aspects dans ce texte. Comment servir le Seigneur à travers le vrai amour, en s'attachant au bien et pour les frères et sœurs avec persévérance, premièrement. Le service du Seigneur, servir le Seigneur, lui être esclave, car il est responsable de ma vie. Et le fruit de ce service, la joie dans le service, la paix dans le service, la prière dans le service. Et évidemment, se servir les uns les autres. Amen.